Chers auditeurs, bonjour. L'enfer est un endroit dont tout espoir est banni. Lisons à nouveau Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Combien de temps dure l'éternité? On ne peut passer l'éternité car cela signifierait qu'elle a une fin. Nous parlons de vivre toute l'éternité. On peut vivre toute une vie, tout un siècle, mais pas toute l'éternité. J'ignore quand Dieu met l'immortalité dans le cœur humain. Peut-être est-ce lorsque nous sommes conçus, ou quand nous vivons dans le sein de notre mère, ou encore à la naissance. À quelque instant que ce soit, nous commençons à la vivre dès ce moment-là. À cet endroit, nous maintiendrons une existence. Supposons que notre vieux globe soit fait entièrement d'acier. Passons une fourmi sur l'équateur. Elle va commencer à marcher sans arrêt à une vitesse assez rapide de, disons, 95 mètres à la minute autour de ce globe, d'un peu de plus de 40 000 km de circonférence. Combien de temps cet insecte mettra-t-il pour creuser un sentier d'un centimètre à force de passer toujours à la même place? Et combien de temps faudra-t-il pour pratiquement scier la Terre en deux? Eh bien, cela ne représente pas encore l'éternité, mais beaucoup moins. Je me suis déjà dit que si l'enfer ne durait qu'une centaine d'années, que je pourrais malgré tout le supporter. Après un jour, j'aurai la possibilité de me dire, il ne me reste plus que 99 ans et 364 jours, et après cela, je sortirai de cet endroit. S'il ne s'agissait que de 1000 ans, ce serait encore supportable, car après un jour, je pourrais, en vertu du même principe, me dire, je sortirai malgré tout d'ici dans 999 ans et 364 jours. Le lendemain et le surlendemain, et chaque jour, ce chiffre décroîtrait. Cette toute petite lueur d'espoir dans l'immensité du temps me permettrait de tenir le coup. Mais la vérité est que celui qui est déjà resté en enfer un million, un billion, un trillion d'années, on a toujours autant à passer. La Bible parle de punition éternelle. Dante, dans son fameux poème intitulé « L'Enfer », écrit vers 1300 « Qu'un écriteau soit posé au-dessus du portique de cet endroit, disant « Abandonne tout espoir, toi qui vas passer cette porte. » Lorsque vous regardez un homme ou une femme, que voyez-vous en eux? Un blanc, un noir, un jaune? Dites-vous, tiens, voilà, quelqu'un de bien ou de mal habillé, de pauvre ou de riche, d'instruit ou d'illettré? Nous devrions nous dire, voici une personne créée à l'image de Dieu, pour qui Jésus est mort et qui vivra soit au ciel en présence de Dieu, soit dans le feu de l'enfer. La seule chose qui, dans notre monde, est appelée à durer, c'est l'humanité, ce sont les créatures de Dieu. Les nations s'élèvent et retombent, les cultures se font et se défont, mais les gens durent et durent. Combien de personnes de vos connaissances sont-elles mortes sans Christ l'année dernière? Combien d'entre celles que vous aimiez vraiment? Combien de membres de votre famille? Combien d'amis? Combien de gens sont-ils en enfer tout simplement parce que vous n'avez jamais ouvert la bouche, même pas une seule fois, pour essayer de les faire se tourner vers le Seigneur? Jamais dit un mot lorsque l'occasion s'en présentait. Jamais tenté de créer cet instant favorable quand vous le pouviez. Oh, la tragédie des tragédies et la calamité des calamités est de mourir sans Jésus-Christ. La seule issue à la portée de chacun est de se mettre en règle avec Dieu et de le rester. Et nous nous embarrassons malgré tout d'un tas de considérations et de tracas stupidement inutiles. Nous pensons tant à la nourriture, à un abri, aux vêtements, alors qu'une seule chose devrait vraiment importer, devenir un enfant de Dieu et le servir fidèlement. En enfer, chacun conserve toutes ses facultés mentales. Lorsque l'homme riche mourut, il conserva ses sens de la perception, de la vue, de l'ouïe. Il pouvait parler et se souvenir. Abraham, d'ailleurs, lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. » De plus, il se rappelait fort bien de ses saints frères qui étaient toujours en vie sur la terre et voulait les avertir de ce qui lui était arrivé à lui. S'il pouvait se souvenir de ses saints frères, ainsi que des biens qu'il possédait sur terre, j'ai toute raison de croire qu'il se rappelait également des temps où il avait négligé de faire la volonté de Dieu. Et pourtant, l'occasion s'en présentait. Si vous perdez votre âme, et qu'un beau matin vous vous réveillez dans les tourments, l'une des choses les plus horribles que vous aurez à supporter sera la torture infligée par la hantise de tout ce que vous pourrez vous souvenir. Comme par exemple, ah, si seulement j'avais écouté les supplications de ma femme, si j'avais prêté attention aux avertissements de mon mari, si j'avais écouté ce que me disaient les chrétiens qui venaient annoncer l'évangile à la maison et qui m'enjoignaient de faire la volonté du Seigneur, si. Mais cela ne changera en rien votre situation. Le mot « si » est énorme dans ce qu'il implique. Si j'avais écouté, si j'avais fait ce que je savais être la vérité, si j'avais obéi à l'Évangile, vous ne pourrez sortir de cet endroit une fois que vous y serez entré, et tous les « si » du monde n'y changeront rien. Oh, ces souvenirs qui vous brillent l'esprit et vous poursuivent jour après jour. Non seulement cet homme pouvait se rappeler de tout, mais il pouvait reconnaître les gens comme il le fit pour Lazare. Parfois, on m'a demandé si je croyais qu'on reconnaîtrait les gens dans l'éternité. Et ma réponse a toujours été oui. Si on se reconnaît dans l'au-delà, et que lorsque nous arriverons au ciel, nos êtres chers et nos amis n'y sont pas, ne serons-nous pas malheureux? Mais essayons de prendre une autre position. Si au ciel, nous perdons la capacité de discerner les êtres entre eux, nous ne connaîtrons au ciel que notre propre personne. Nous penserons qu'aucun membre de notre famille ou aucun ami n'y est parvenu. En réfléchissant, on s'aperçoit que croire à l'abolition de la capacité de se reconnaître est de loin plus difficile à concilier avec la logique que le contraire. Oui, je crois qu'on se verra les uns les autres. Cet homme riche a d'autant plus aisément reconnu Lazare qu'il l'avait déjà connu sur terre. Nous avons tous essayé de travailler parmi les gens afin de les conduire vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont dit, « Cher monsieur, comprenez qu'il m'est impossible d'effectuer ce changement dans ma vie à cause que ni mon père, ni ma mère, ni mon frère n'appartiennent à cette église. » Rien ne pourrait être pire que de rencontrer maman en enfer et d'y voir papa, un frère ou une sœur. Vous ajouteriez encore à leurs afflictions, ainsi qu'aux vôtres, ne serait-ce pas une chose horrible? Quelle catastrophe que de tomber nez à nez avec un être cher ou un ami en un tel lieu. Si vous avez des parents qui ont quitté ce monde sans s'être préparés à rencontrer Christ, ils ne veulent plus vous voir, soyez-en persuadés. L'homme riche priait pour que ses saints frères ne le rejoignent pas dans ce lieu de tourment. Et il ne fait aucun doute que vous ne voulez à aucun prix que cela vous arrive à vous. Je crois un certain degré dans le châtiment, et c'est pourquoi l'enfer est plus terrible pour les uns que pour les autres, et cela pour deux motifs. Le premier est conforme à la raison. Le deuxième s'accorde parfaitement avec les Écritures. La jurisprudence en matière criminelle reconnaît des degrés dans la culpabilité. Si un homme commet un crime prémédité, sa peine sera de loin plus sévère que celle encourue pour un meurtre passionnel, car ce dernier résulte d'une action soudaine, parfois incontrôlable. Notre système de loi est nuancé quant à la faute commise. Il est certain qu'il en va de même pour Dieu. La Bible enseigne ce principe. En Matthieu 11, 21, 24, le Seigneur s'écrit « Malheur à toi, voisin. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Le Fils de Dieu dit donc que le jour du jugement sera plus supportable pour les uns que pour les autres. La capacité plus l'occasion égale le pouvoir. Et si nous avons le pouvoir et l'opportunité, une importante responsabilité s'impose à tous. En Luc 12, 47 à 48, le Seigneur dit que le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, n'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Toujours dans le poème, l'enfer, Dante divise l'enfer en deux parties concentriques. C'est vraiment au milieu que le châtiment est le plus intense. Il est très sévère dans le second cercle, mais pas tout à fait autant que dans le premier. Arrivé au troisième, il est encore un peu moins, et ainsi de suite. J'ignore où il a été cherché, se diront. Mais je sais, par contre, d'où il a tiré l'idée sur laquelle il a basé les 10 cercles de la Bible. Si je pouvais choisir un endroit d'où quitter ce vieux monde qui n'est pas préparé à rencontrer Christ, je ne serais pas dans ce pays-ci. Je préférerais mourir dans la peau d'un sauvage amazonien qui n'a jamais eu l'ombre d'une chance d'entendre parler d'un sauveur nommé Jésus. En enfer, les familles sont divisées. Lorsque nous songeons à elles, nombre d'entre nous se laissent parfois dominer par leurs sentiments. C'est alors que nous cessons d'être réalistes. Je n'aime pas être loin de la maison, mais mon ministère de prédicateur m'y oblige, hélas, très souvent. Cela ne signifie évidemment pas que prêcher est pour moi une corvée, loin de là. D'ailleurs, quel genre d'homme est celui à qui cela ne déplaît pas de vivre loin de son épouse durant un certain temps? J'aimerais vous dire ce qui me briserait le cœur, c'est de comparaître devant Dieu le jour du jugement et de voir ceux que j'aime tendrement partir dans une direction alors que moi, j'irai dans une autre. Cela me serait presque intolérable de voir que cette femme que j'ai aimée dans la vie, avec laquelle j'ai travaillé, qui m'a aidé à élever ma famille, était perdue et que moi je serais sauvé. En bref, d'être séparé d'elle à jamais. De telles choses arriveront. Un père et son fils iront en enfer tandis que la maman et sa fille se rendront au paradis. Ça peut être le contraire, mais ce qui est certain, c'est que des familles seront déchirées. Avez-vous vraiment tenté de convertir ceux qui vous sont chers? J'aime voir quelqu'un obéir à l'Évangile et être sauvé, mais ce qui m'intéresse spécialement, c'est ma propre chair, mon propre sang. Vous savez ce qu'est l'enfer. Ne les laissez pas y aller. Je vous en supplie.
Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement s'entend car nous n'avons absolument rien à vendre.
Le Seigneur même, il est amour, je veillerai toujours le Seigneur même, il est amour.
Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur même, pour la suprême, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, il est amour.